je ne savais pas ce dans quoi je voulais me lancer, je n'avais pas d'idée, je savais juste que je voulais que ce soit avec une personne avec qui je montrais un projet, que je voulais pas être seule. Tout le sujet du bien-être, de la santé mentale, en fait, même de l'équilibre vie pro-vie perso, il va bien au-delà et il touche toutes les sphères sur lesquelles en plus l'entreprise, elle a, et c'est ça qu'on a découvert petit à petit, elle a des obligations légales. Ce que dit souvent mon associé Lucas, il dit tout le temps, si t'as un projet, tu le testes avec 1000 euros ou tu le jettes. Je pense, et sans aucun tabou, avoir fait un bon burn-out l'été 2020. C'est aussi tout ce qui a été l'histoire de ma bonne fée au final, mais j'ai su être accompagnée par les bonnes personnes au bon moment, c'est-à-dire un peu avant que ce soit trop tard. C'est que moi, quand je me suis lancée, on m'a dit « c'est maintenant que tu dois tout donner, tu dois travailler 18 heures par jour et c'est comme ça et tu réussiras que si tu fais ça ». Je pense que c'est faux. Et ne pas croire que c'est en s'acharnant des heures sur son projet que c'est ça qui va en faire la réussite.
Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Delphine Cochet, la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée est une solution qui accompagne les entreprises pour favoriser le bien-être des salariés. Après avoir gravi les échelons, Delphine, qui est passée de stagiaire à directrice générale d'une entreprise événementielle, décide après deux grossesses consécutives de quitter son job pour prendre le temps de réfléchir à un futur projet de création d'entreprise. Alors, elle n'a pas d'idée précise en tête, mais elle sait qu'elle ne veut pas entreprendre seule. Et après une simple recherche d'associés sur Internet, elle tombe rapidement sur Lucas, qui va devenir son partenaire dans l'entreprise qu'il vient de lancer, Ma Bonne Fée. À l'origine, le projet était d'accompagner les parents à leur retour de maternité, mais la solution va rapidement évoluer pour répondre à une demande de plus en plus nécessaire, celui du bien-être des salariés, de manière beaucoup plus large. Une solution qu'ils ont su développer seuls pendant la période de confinement. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Delphine sur son parcours avant l'entrepreneuriat, son envie de créer son entreprise, comment son associé et elle ont créé un produit qui répond à la fois à la demande des salariés et aux impératifs des entreprises. Et nous avons parlé aussi du stress du salarié qui s'est amplifié depuis le confinement et du rôle de l'entreprise auprès de celui-ci. Delphine s'est aussi confiée sur son burn-out qu'elle a fait pendant le confinement, un mal-être qui lui a permis de travailler sur le projet avec un angle différent et personnel. Je vous invite à découvrir Delphine, une personnalité qui n'a pas peur des challenges et qui n'hésite pas à montrer les coulisses de l'entrepreneuriat, une image qui n'est pas toujours aussi glamour qu'on le pense. Mais avant de lui laisser ses places, merci de prendre une minute pour noter et commenter le podcast New Woman Boss sur iTunes. C'est important pour moi, mais surtout pour mettre en avant ces rôles modèles de femmes entrepreneurs au parcours unique. Je vous souhaite une très belle écoute.
Bonjour Delphine.
Bonjour Fatima.
Ravie de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui.
Ben merci beaucoup de m'accueillir.
Merci à vous. Je vais vous demander pour commencer, Delphine, vous présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore.
Alors, comment on se présente? C'est toujours délicat cette question. Je vais commencer par la vie perso. Donc, je suis Delphine Cochet. Je suis la maman d'Augustin qui a 5 ans et de Louise qui a 4 ans. Et puis aussi, on va dire, la maman d'une entreprise qui s'appelle Ma Bonne Fée et que j'ai cofondée il y a 4 ans. Et si je parle de la partie plutôt professionnelle, j'ai passé 10 ans dans une agence de communication événementielle.
Oui.
Et puis c'est la naissance de mes enfants assez rapprochés qui a provoqué aussi l'envie d'aller créer ma propre structure et de découvrir le parcours entrepreneurial.
D'accord, très bien. Bon, je voudrais juste revenir justement sur la partie... salarié, vous avez passé 10 ans donc chez Wagram et vous, donc une agence de conseil en événementiel. Vous avez évolué très rapidement dans l'entreprise. Vous me disiez tout à l'heure, du coup, c'était d'abord, vous avez commencé comme stagiaire,
oui.
Puis responsable de marketing communication, puis ensuite, vous avez été très rapidement directrice et responsable de l'agence.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours assez fulgurant en quelques années dans l'agence?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est, je dirais même trois choses. La première, c'est que c'était une PME. Et une PME, ben, comme chacun sait, c'est plus facile, entre guillemets, de gravir des échelons parce qu'il y a de la place parfois aussi pour ça. Mmh. Et en particulier, c'est la deuxième chose, quand vous avez un dirigeant qui est très ouvert aux progressions en interne, qui est très ouvert aux pistes d'amélioration. Mmh. Et c'est la troisième chose, moi je pense que j'ai une curiosité et une envie souvent d'aller un peu plus loin que ce qu'on me demande et qui a fait aussi que j'ai progressé rapidement parce qu'il y a eu plein de concours de circonstances, de remplacements, de congés maternité qui me font un peu sortir de ma zone de confort et puis ensuite d'intérêt. Je me souviens, c'est une petite anecdote, mais on était début 2009, donc Facebook était en France depuis un an et quelques, donc les pages entreprises n'y étaient pas encore trop, et donc moi j'avais dit il faut absolument qu'on lance notre page Facebook entreprise. À l'époque, on avait un peu la main sur le langage FBML possible, et donc j'avais un peu codé à la va-vite notre page Facebook. Donc en fait, toute cette curiosité et cette envie d'en faire plus, elle a fait aussi que mon patron m'a laissé les rênes pour creuser et aller plus loin, et donc m'a fait confiance.
D'accord, très bien. Et est-ce qu'en tant que dirigeante, vous aviez déjà de l'appétence pour tout ce qui était bien-être du salarié? Vous étiez combien déjà au sein d'entreprise?
Alors, vagramez-vous.
Vous étiez à la fin, les dernières années?
Quand je suis partie, et toujours d'ailleurs, ils étaient 25 et on faisait 10 millions de chiffres d'affaires, donc quand même une belle, une belle, belle TPE ou petite PME, ça dépend de quel point de vue on se place. Alors, je pense qu'on... Forcément, et je ne fais le lien que maintenant, mais le sujet de l'événementiel, de créer le lien, c'était toute notre mission était de créer le lien dans les entreprises, de participer à la culture d'entreprise. Donc ça, c'est évidemment très lié au sujet de bien-être, de qualité de vie au travail, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on est bien dans sa boîte. Et après, en interne, moi, je sais que c'est... Alors, quand on est une PME, c'est vrai qu'on... Il y a beaucoup d'artisanal, souvent.
Oui.
et c'était ce que j'adorais faire, de créer des événements, de créer des moments conviviaux. Donc, on avait régulièrement des sessions aussi bien-être qu'on faisait entre nous, de sport, de... Voilà. Donc, je pense que c'était quand même inscrit dans la culture dans laquelle j'ai grandi à mes débuts dans la vie professionnelle.
D'accord, il y avait déjà un peu de ça dans votre quotidien.
Et d'ailleurs, alors quand je me souviendrai très bien qu'un des arguments qui m'a fait quitter Vagramez-vous, autre que j'avais l'impression, je dirigeais une entreprise mais qui n'était pas la mienne, donc j'avais cette envie de diriger une entreprise qui serait la mienne. Et la deuxième chose, c'est que je me disais que j'avais aussi envie de concilier vie pro, vie perso, comme je le voulais. J'avais pas envie d'être dans un rythme de bureau comme j'avais pu l'être par le passé.
Mmh. Oui, c'est la question que j'allais vous poser justement. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter le poste et puis à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Donc il y avait ces motivations-là d'ailleurs. Ouais. Entre vie pro, vie perso, parce qu'à ce moment-là, vous étiez déjà maman?
Alors, en fait, moi, j'ai le déclic. Donc, j'ai eu mon fils en juin 2016. Comme j'avais travaillé pas mal comme une acharnée jusque-là et jusqu'au bout, j'ai pris une pause un peu plus longue et je n'ai repris qu'en janvier 2017. Et dans la foulée, je suis retombée enceinte. Et donc, le mois où je suis rentrée, j'ai annoncé que j'allais repartir parce que j'attendais un nouvel enfant. Et donc, deux mois après ça, en fait, j'ai eu un peu un déclic où je me suis dit, en fait, non, je ne vais pas à nouveau m'absenter parce qu'on... voilà, c'était, j'allais pas venir 6 mois tous les 6 mois. Et puis même dans ma tête, c'était en fait, c'est le moment où j'enlève un peu le pansement. Et au lieu de préparer une absence, je vais préparer mon départ. Et quand je partirai, je ne reviendrai pas. Et ma reprise sera pour un nouveau projet. Et je ne sais pas ce que ce sera. Donc c'était vraiment ça l'élément déclencheur. C'était la maternité et en amont de ma deuxième grossesse. Et donc je me suis lancée quand... Mes bébés avaient 4 mois et 20 mois.
D'accord. Et pendant cette période-là, vous avez le premier, puis le deuxième. Donc, vous décidez de quitter en tout cas le job dans lequel vous étiez. Vous n'aviez pas du tout d'idée en tête. Est-ce que ça s'est fait après, au fur et à mesure? Donc, vous le quittez, vous ne savez pas pourquoi, mais vous étiez sûr que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là?
Alors moi, j'ai une particularité, c'est que je pense que j'ai un goût parfois trop prononcé pour les challenges.
Oui.
Et que et qu'à partir du moment où là j'avais décidé que en fait c'était le bon moment, j'étais partie. Et effectivement, je ne savais pas ce dans quoi je voulais me lancer. Je n'avais pas d'idée. Je savais juste que je voulais que ce soit avec une personne avec qui je montrais un projet, que je voulais pas être seule, parce que justement j'avais tellement apprécié ce côté binôme avec mon dirigeant juste avant. Donc je savais que je voulais pas être seule, je savais que je voulais travailler dans la tech, parce que, c'est tout bête, mais parce qu'il y avait aussi une place à prendre, parce que peu de femmes, parce que plein de choses à faire. Et voilà, c'était le postulat de départ. Et pour la petite anecdote que je raconte souvent, c'est que ma recherche de projet, elle s'est limitée à un mail, puisque le jour en mars 2018 où j'ai ouvert mon ordi en mode qu'est-ce que je fais maintenant, ça y est, les enfants, les deux sont avec leur nounou, qu'est-ce que je fais? Et donc j'ai tapé projet start-up cherche associé et je suis tombée sur un site qui m'a mené, bref, de fil en aiguille à celui qui allait devenir mon associé. D'accord. Et donc dans la foulée, je lui ai écrit sur LinkedIn. Le lendemain, on a pris un café et la semaine d'après, j'étais à temps plein sur le projet.
Ah oui, donc, c'était rapide là.
Voilà, exactement. Donc il n'y a pas eu beaucoup de laps de réflexion. J'ai pas eu ce moment. Alors, est-ce que je regrette parfois? Oui, mais en même temps, je ne serais pas là où j'en suis non plus, donc on ne peut pas refaire l'histoire. Mais peut-être un conseil que je donnerais quand même, c'est aussi de prendre le temps. Justement, toute cette partie réseau, se renseigner, ça veut dire quoi aussi l'entrepreneuriat, etc. Ça, je ne l'ai pas du tout fait. Je me suis lancée en mode je ne sais pas nager et je vais dans le grand bain. Quoi.
Oui, d'accord. Ça va, vous êtes bien débrouillée.
Je fais la nage du petit chien, là.
Mais cet associé, quand vous le rencontrez, vous savez déjà pourquoi, pour faire quoi ensemble? Il avait un projet déjà, lui, en tête?
Ouais, en fait, alors là, si on parle un petit peu de ma bonne fée, il avait lancé 3-4 mois avant un site en mode test de ma bonne fée. Et alors, comme on a fait un pivot, je vais vous dire ce que c'était à l'origine ma bonne fée, puis je vous dirai après ce que c'est aujourd'hui. À l'origine de ma bonne fée, on a créé un réseau de nurses de nuit, donc pour accompagner les salariés... les parents, pardon, à la sortie de la maternité, pour retrouver un peu la sécurité de la maternité, mais au domicile. Mmh. Et donc lui avait commencé à créer un réseau, avait eu de la publicité, enfin pas de la publicité, mais un reportage notamment à la maison des maternelles. Comme moi, j'étais en congé maternité, j'avais vu passer ma bonne fée. Et j'avais même testé, puisque avec mes deux petits et mon mari qui partait en déplacement, j'étais un peu crevée. Et donc, mes beaux-parents nous avaient financé deux nuits. Donc, j'avais testé ma bonne fée. Et en fait, quand j'ai ouvert ce site internet, lui venait de publier une annonce parce qu'il se disait, il y a quelque chose qui prend, il y a quelque chose à faire, mais je ne veux pas me lancer seule.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que j'ai réagi sur le projet. Puis si je fais juste le grand écart pour expliquer ce que c'est aujourd'hui ma bonne fée, comme ça vous verrez un peu. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout en direct B2C client. On vend aux entreprises une solution RH pour accompagner justement les collaborateurs dans leur équilibre vie pro-vie perso, que ce soit sur les sujets justement de parentalité, santé mentale, donc équilibre bien-être physique et mental. Et puis tous les sujets aussi liés à la diversité et inclusion, donc les situations de maladie, de handicap, etc. dans l'entreprise. Donc on a fait...
D'accord, vous avez fait un pivot, vous êtes passé du B2C au B2B.
Exactement.
Pourquoi? Parce qu'il y avait un marché, les entreprises en avaient besoin à ce moment-là, j'imagine.
Parce qu'effectivement, ce pivot, on l'a fait, on l'avait déjà en tête juste avant le confinement et il a été exacerbé avec le confinement. Ouais. Où on s'est dit, de toute façon, on voulait proposer cette solution aux équipes RH. Et on s'est dit, le confinement, c'est l'occasion pour sortir un produit, une solution concrète qu'ils peuvent déployer auprès de leurs salariés. Et puis, on verra bien. On va voir à la sortie de tout ça, est-ce que ce type de dépense, ça passe ou ça casse? Et donc, notre boîte, ça passe ou ça casse? Et je touche du bois, mais pour l'instant, ça passe, puisque justement, c'est là où on a eu, à la sortie du premier confinement, nos premiers clients. Donc, c'était il y a 2 ans. Qui nous ont fait confiance pour accompagner leurs salariés.
D'accord. Donc, au moment où vous faites le pivot, arrive la crise sanitaire, presque.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là?
Très honnêtement, le confinement a été extrêmement difficile, à la fois à titre personnel et professionnel. À titre personnel, parce que bah, comme beaucoup de monde, on s'est retrouvés entre quatre murs avec,
avec
mon mari et mes deux enfants, qui avaient donc 2 et 3 ans. Donc qui était complètement dépendant et complètement ingérable à ces âges-là. Mon mari, sur, il a eu un audit de ses 2 dernières années de mission qui était lancé en avril, donc au bout d'un mois, et donc bah, il était un peu stressé. Et moi, bah, il y avait tout cet enjeu aussi de... En fait, là, c'est le moment où, où tout se joue presque. Alors, en, en vrai, tout se joue tous les jours, mais, ça se joue là de... Il faut qu'on... on arrive à avoir une proposition de valeur, sinon tout va s'arrêter. Ouais. Et donc, c'était à la fois un environnement de stress, de contexte, et tout, tout qui se cumulait. Donc, moi, je ne l'ai, je l'ai pas hyper bien vécu, très honnêtement.
Oui.
et pourtant, on n'a jamais été aussi presque actifs, aussi engagés dans plein de projets avec ma bonne fée. On a levé des fonds pour financer de l'aide au personnel soignant pour la garde d'enfants. Mmh. Voilà, on a participé à l'initiative Protège ton soignant, etc. Donc on a été... Et puis on a sorti toute notre nouvelle offre. Donc on était au taquet.
Bah justement, est-ce que vous avez senti un peu qu'il y avait une opportunité pendant cette crise, quelque part, pour, ce, pour ma bonne fée? Parce qu'il y avait... tellement de choses qui se jouaient autour du bien-être des salariés à ce moment-là.
En fait, le premier curseur, ça a été la parentalité. Ouais. Parce que déjà, c'était notre expertise historique. Mmh. Et puis, évidemment, que le truc numéro un, c'était les salariés parents, quand vous deviez gérer vos enfants à la maison. Et puis, il n'y avait pas trop de justice entre... Avec des tout-petits, ben, c'est le bazar du tout-petit. Avec un ado, c'est les devoirs. C'est, il faut avoir du matériel informatique. Enfin, il y avait plein d'autres sujets aussi qui étaient très compliqués. Donc, le sujet 1, c'était parentalité. Sur lequel, et c'est là où on a le plus aussi accroché nos premiers clients. Et puis, dans la foulée, en fait, ben, on s'est rendu compte aussi de... Bah, finalement des dégâts que ça avait créés, et notamment sur la santé mentale. Oui. Il y a une étude de Malakoff Humanis qui est sortie en 2021 où vous aviez un salarié sur 4 qui se déclarait en situation de stress extrême. Donc tout ça, c'est pas anodin. Et donc on s'est dit, bah, en fait, tout le sujet du bien-être, de la santé mentale, en fait, même de l'équilibre vie pro-vie perso, il va bien au-delà et il touche toutes les sphères sur lesquelles, en plus, l'entreprise, elle a, et c'est ça qu'on a découvert petit à petit, elle a des obligations légales. Oui. Tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est l'entreprise a un rôle de faire des obligations de résultat sur le bien-être physique et mental de ses collaborateurs. Donc ça, c'est très fort déjà comme obligation. Puis après, on connaît tous toutes les obligations en termes d'égalité professionnelle, femmes-hommes, et donc à chaque fois, vous en découle les sujets sur lesquels nous, on était déjà, parentalité, équilibre vie pro-vie perso, santé mentale, etc.
D'accord. C'est qui vos premiers clients, justement, pendant cette crise?
Nos premiers clients, ça a été Talentsoft, donc start-up RH Tech, qui a été racheté par la suite par Cegid. Qui on a eu dans nos premiers clients? On a eu Tikeo Capital aussi, donc plutôt finance. Les tout premiers, les early adopters. Et puis après, assez rapidement, on a eu le groupe Crédit Coopératif qui nous a rejoint. On a eu pas mal de boîtes dans la tech. Donc on a eu Scality, on a eu Itch, on a eu Meilleurs Agents. Mm-hmm. Voilà, qui sont venus nous voir. Et des boîtes, beaucoup de boîtes de conseils aussi.
Et quand ils viennent vous voir, ils viennent vous voir sur des sujets, des besoins particuliers autour du salarié, c'est quoi les sujets qui reviennent le plus souvent, les problématiques qu'ils ont le plus, en fait?
Alors, bah, nous, le premier sujet, comme je disais, c'était aussi lié à notre expertise historique, c'était autour de la parentalité, exactement. Mmh. Et puis, assez rapidement, ce qui faisait notre force et ce qui les intéressait, c'était qu'on arrive avec une solution de qualité de vie globale pour leurs salariés, puisque même aujourd'hui, notre outil, il permet de communiquer et de sensibiliser à la fois sur, comme je disais, ces fameux risques psychosociaux, donc la gestion du stress, et qu'on soit collaborateur, manager, ou voilà, de quels sont les outils dont le collaborateur a besoin pour aller bien, être plus productif, être plus épanoui dans son job, dans sa vie à côté aussi. Donc nos gros sujets, c'est parentalité. On a tout un sujet aussi autour des fragilités. Donc quand on a un proche en situation de dépendance, en situation de handicap. Et puis les situations de... On a beaucoup en ce moment des situations de charge mentale, de stress assez intense, de personnes qui se sentent débordées, qui n'arrivent pas même à couper, à déconnecter, parce qu'on a ce double travers aussi avec le télétravail, d'être dans l'hyperconnexion et de plus avoir du tout de frontières entre le pro et le perso. Et ce n'est pas évident. Et moi, pour moi, la première, ça n'est pas évident.
Oui, je comprends. Et du coup, concrètement, donc sur la plateforme que vous proposez en tant que salarié, donc on peut trouver pour la partie parentalité une garde si on a besoin d'une garde d'urgence ou peut-être Exactement. Pour la partie plus ce qu'on vient de parler, donc psychologue, si on a besoin, si on se sent presque en burn-out, on a besoin d'échanger. C'est bien c'est des liens que vous faites avec des professionnels.
C'est ça. Dans notre solution, on a voulu créer à la fois... ce qu'on appelle les services d'accompagnement individuel. Donc c'est moi, salarié, j'ai un problème de mode de garde ou alors je veux m'organiser pour le mois de septembre et donc je recherche une solution et je fais appel à mon care manager de Ma Bonne Fée qui va m'aider à trouver la bonne solution, sachant que cette solution... Et quelles que soient les solutions sur lesquelles on accompagne, elles peuvent être financées par l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux d'accompagnement aussi.
Oui.
Donc ça peut être des heures de garde d'enfants, ça peut être des places en crèche, sur la partie parentalité. Ça peut être effectivement la mise en relation avec des experts. Donc on a un pool d'experts à la fois sur les sujets parentalité, donc du coaching de retour de congé maternité, paternité d'accueil de l'enfant, comme on a aussi des auxiliaires de puériculture sur la partie vraiment parentalité. Et puis c'est plus large aussi, puisqu'on a des, comme vous disiez, des psychologues, psychologues du travail, sophrologues, des coachs aussi sur le management. Et aussi toute une partie assistance sociale, donc pour accompagner les salariés. Et ça, on le couple avec du contenu, et c'est là où c'est complémentaire, on est main dans la main avec les équipes RH, puisqu'on arrive avec un programme de qualité de vie au travail que l'entreprise décline tout au long de l'année et qui vit avec ce que nous on fait, avec du contenu qui vont être des podcasts, des articles, des tips, des conseils sur, encore une fois, tous nos sujets, équilibre vie pro, vie perso, santé mentale, etc. Et des ateliers auxquels on les accueille, on leur propose de participer, qui vont être gestion du stress, mieux concilier vie pro, vie perso, etc.
D'accord, ça s'adresse particulièrement aux RH?
Alors, ça s'adresse aux salariés.
Aux salariés, ouais, mais la partie contenu pour les RH aussi.
Alors, on a les RH, c'est vraiment sur un autre sujet, on pourra en parler, on a créé le club RH, mais là, la solution qu'on apporte, c'est à destination des salariés, tout à fait. Mais après, le RH, en tant qu'individu, peut aussi salarié. Être amené, voilà, et qui est salarié. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais on s'est rendu compte qu'on a un taux très élevé des équipes RH qui sont nos premiers utilisateurs. D'accord. Notamment parce que, aussi, alors parce que je ne sais pas, mais on a un public de côté RH assez féminin, souvent dans la tranche d'âge entre 30 et 40 ans, donc qui ont des enfants, donc qui sont liés à tous ces sujets, ben, soit garde d'enfants pure, charge mentale, surtout sur les publics RH, etc. Donc c'est aussi nos premières utilisatrices et premiers utilisateurs.
D'accord. Comment vous l'imaginez justement cette plateforme au tout départ ? Donc vous la construisez avec des salariés, des RH ? Est-ce que vous avez déjà... parce que j'imagine la première solution que vous avez sortie, ce n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas certainement pas...
Non, et en plus, c'est la première, on l'a sortie. Donc on a sorti pendant le confinement, on était en no-code complet. Donc no-code, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est, je vais expliquer pour tout le monde, c'est le fait de pouvoir déployer un outil sans... tech derrière, c'est-à-dire qu'on utilise des outils existants, branche les uns aux autres, et puis ça vous donne quelque chose qui ressemble à comme si vous aviez codé des choses, mais non. donc ça, on l'a fait en no-code, et on est effectivement, en fait, on est allé interviewer beaucoup, beaucoup de RH sur leurs attentes, et donc ça, c'est aussi ce qui a construit notre offre. Et la partie utilisateur, en fait, on est aussi mené par sur quoi ils nous sollicitent, et donc on va plus mettre le paquet sur les choses sur lesquelles ils nous sollicitent, et c'est ce qui nous nourrit aussi nos retours auprès des équipes RH. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour donner du pouls qualitatif, évidemment toujours anonyme, mais sur aujourd'hui c'est quoi les attentes de vos salariés, sur quoi ils nous remontent des difficultés, et donc peut-être là où il va falloir mettre le curseur pour être cohérent entre ce qu'on met en place, les discours, et puis la réalité du quotidien qui est vécue par les salariés eux-mêmes.
Donc en no-code, donc ça veut dire que vous avez travaillé vous avez tout fait tous les deux en fait. Donc
oui, surtout mon associé, c'est lui le génie créatif comme je l'appelle.
D'accord. Ça vous a demandé quand même un budget de départ de.
Alors non, no-code, ça vous demande un budget de parce que souvent pour déployer quelque chose en no-code, vous allez aller chercher des outils ce qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire qui sont disponibles sur internet. Vous mettez votre carte bancaire et vous payez un abonnement mensuel avec nous on a comme outil HubSpot, on utilise, alors je vais être nulle pour tous les citer parce que c'est pas moi qui étais dessus, mais typiquement on va brancher du Calendly avec HubSpot, avec Outgrow, avec etc.
En utilisant du Zapier ou ce genre
exactement.
De choses.
Exactement, voilà.
D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce que c'est un projet qui vous a demandé un budget global, communication, enfin, vous avez pu démarrer un budget en fait sans vraiment avoir, sans avoir besoin de fonds en fait, parce que tout était sur internet, enfin c'est du digital quoi, c'était juste monter la plateforme. Et,
exactement. Alors après on a quand même. Ça on l'a eu pendant vraiment un an et demi à peu près, et enfin au bout d'un an on a un troisième associé qui nous a rejoint dans l'aventure qui lui est tech de formation et dont la mission principale c'était de sortir un produit en bonne et due forme, enfin vraiment tech déployé avec nos exigences et nos propres outils. D'accord. Qu'on a sorti là en début d'année. Et où pour le coup, là, oui, il nous a fallu des budgets puisque de développement, développement tech. D'accord. Et d'innovation, etc.
D'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir que voilà, on peut démarrer un projet sans trop avoir.
Alors ma première reco est
de budget quoi.
Ouais. Ce que dit souvent mon associé Lucas, et il dit tout le temps, si t'as un projet, tu le testes avec 1 000 euros ou tu le jettes. Ouais. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller dans plein de dépenses si déjà avec 1 000 euros, on n'arrive pas à faire des choses et à prouver qu'il y a quelque chose. C'est un peu le premier signe. Donc, c'est toujours un peu progressif, quoi.
D'accord. Oui, effectivement, oui. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui mettent beaucoup d'argent au départ avant d'avoir testé. Du coup, c'est vrai que
alors
c'est
après, pas mieux. Alors après, évidemment, je vais nuancer mon propos parce que ça va dépendre sur quel secteur on est.
Le projet, oui.
Il y a des secteurs biotech, deep tech, etc. où de toute façon, il y a des investissements de départ. Mais dans énormément de cas, on peut tester... rapidement un produit avant de mettre et d'ailleurs nous c'est un de nos regrets sur la première partie qui s'appelle maintenant nounounuit.fr où on a très vite développé une app qui nous a coûté cher. Ouais. Donc qui fonctionne etc, mais étant donné qu'on a fait un pivot, je suis pas sûre que c'était nécessaire qu'on déploie cette app. Tant qu'on n'avait pas atteint des niveaux où on a besoin, le fameux scale, on a besoin de scaler, en fait, tant que manuellement c'est toujours gérable, il faut garder ces process gérables manuellement. Mmh. Et pas, entre guillemets, gâcher son argent tout de suite dans des projets. Après, on apprend de ses erreurs et...
Effectivement, oui. Oui, il faut en même temps voir le besoin de l'utilisateur et voir si c'est pas trop tôt de mettre en place quoi.
Exactement.
Ouais. Tester, toujours tester du coup.
Ça.
Et comment vous travaillez le modèle économique, je veux dire aujourd'hui de Ma Bonne Fée, c'est quoi ?
Alors nous, on a un modèle hybride puisqu'on a une partie le fameux modèle SaaS B2B, c'est-à-dire que les entreprises payent un abonnement récurrent. Mensuel, annuel, paye un abonnement récurrent pour avoir accès à notre app, notre plateforme web, sur lequel elles ont le contenu, tout le programme QVT, le care manager, les services de base qui sont associés. Et puis ensuite, il y a la partie qu'on appelle plus upsell, donc vente additionnelle, où on va vendre par exemple les accès aux experts. on va vendre des heures de garde à domicile, garde d'enfants, on va vendre des places en crèche, on va vendre des formations spécifiques sur les stéréotypes, les biais, sur là par exemple, on a eu tout un, avec plusieurs entreprises, on les a accompagnées sur des formations sur les sujets d'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc ça, c'est plus du complément additionnel où il y a une partie plus service au final. Donc on a ce modèle hybride entre tech et service.
Et service, ouais. Oui. Et un modèle, d'ailleurs, tout à l'heure on en parlait, donc un modèle service auprès des RH. Donc, parce que c'est une cible un peu spécifique pour vous, parce que vous leur fournissez des informations. Il y a le club des RH, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Alors oui, ben en fait, ça fait partie de toute notre stratégie marketing. C'est-à-dire qu'on voulait, comme on parle à des RH toute la journée, on voulait aussi leur parler, entre guillemets, de manière désintéressée. Et donc, c'est comme n'importe quel business aujourd'hui ou entreprise, c'est que le contenu est très valorisé et c'est un peu créer votre communauté pour ensuite, derrière, pouvoir vendre plus facilement. Donc le principe de départ, c'était ça, c'était de créer une communauté RH dans laquelle on fait des partages de bonnes pratiques, où on produit du contenu. Donc on a déployé un podcast, on a des webinars mensuels, on produit des livres blancs pour sensibiliser sur nos sujets qui sont encore une fois autour de l'égalité femmes-hommes, autour de l'inclusion, du handicap, autour de la santé mentale. Et puis ça fait que derrière, ben, entre guillemets, c'est une manne aussi pour aller, ben, quand on voit des synergies potentielles parce que il y a des intérêts, des manques, des cailloux dans la chaussure, ben, on peut y aller avec ma bonne fée et construire une synergie et des partenariats ensemble.
D'accord, donc des synergies avec les RH. Donc ouais, c'est vrai que ça peut faire, ils peuvent aussi remonter pas mal d'informations effectivement qui peuvent aider dans le projet en fait.
En fait, nous, ça nous nourrit à double titre. C'est un, ça nous nourrit notre pipeline commercial. Et deux, ça nous nourrit, c'est quoi le problème? C'est quoi, c'est la fameuse question, vos cailloux dans la chaussure en ce moment, qu'est-ce que c'est? Si vous aviez une baguette magique, comment est-ce que je pourrais vous aider? Et là, en fait, c'est ça qui fait qu'on recueille beaucoup d'informations hyper pertinentes sur de quelle manière on va mieux répondre à leurs attentes et leurs besoins.
Ouais, vous êtes directement à la source, on va dire, pour pouvoir bien travailler sur votre partie persona et pouvoir remonter les problématiques qui permettent après de proposer un service qui répond au plus juste, quoi, au
c'est
plus
ça.
Adapté.
Exactement.
Très bien. Et justement, donc les cibles, votre cible, donc on avait dit vos clients principaux, donc les PME, start-up, donc là, vous leur proposez donc, cette application-là.
Oui.
Donc c'est une application, les salariés ensuite y accèdent directement, ils accèdent aux différents services dont on a parlé.
Oui.
Généralement, quand vous approchez ce genre d'entreprise, est-ce qu'ils sont tout de suite accrochés par le problème ou est-ce qu'il y a certaines encore entreprises qui pensent que proposer des services à leurs salariés qui sortent un peu du champ de travail, entre guillemets, donc c'est pas leur priorité?
Alors, très honnêtement, en général, ceux qui nous parlent ont déjà une sensibilité sur le sujet, sont déjà convaincus. En revanche, ce qu'on voit souvent, c'est les équipes RH sont convaincues, mais ont tout un travail de sensibilisation auprès des dirigeants et dirigeantes à mener. Donc ça, oui, ça peut être une réalité où moi, j'entends des discours, ben moi, je sais qu'il faut faire ça, mais en fait, les équipes dirigeantes, elles me demandent un ROI. Et je n'arrive pas à leur donner un ROI de but en blanc, quoi. C'est sûr que c'est très difficile à mesurer sur les sujets de l'impact de la qualité de vie au travail sur votre productivité, sur la diminution de l'absentéisme. Évidemment qu'on peut tous sortir plein de chiffres marketing et j'en ai plein en tête, mais dans la réalité, c'est très compliqué à démontrer et ça part plutôt d'engagements sociétaux et, encore une fois, d'obligations de toute façon légale qui existe. Et après, pour reprendre votre question sur ceux qui viennent nous voir, je vois quand même qu'on reste sur un marché encore en évangélisation. C'est pas complètement clair, c'est-à-dire que il y a encore ce sujet de voilà, je suis en train de construire ma politique parentalité, soutien aux salariés, surtout sur les entreprises en forte croissance. Donc la PME ou start-up qui grandit vite, qui passe ce fameux cap de plusieurs centaines de salariés, donc qui se pose sur tous ces sujets et qui a besoin aussi de conseils et d'accompagnement sur la manière de... Par où je commence, comment je l'aborde, c'est quoi mes priorités. Bah, j'ai quelques salariés par an, mais aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup. Mais comme je vais recruter des seniors, demain, j'en aurai plus. Et donc, c'est quoi mes priorités? Et en fait, là où nous, on arrive avec une proposition de valeur différenciante, c'est qu'on leur dit, bah, il n'y a pas forcément à décider, puisque de toute façon, vous devez en parallèle mener plusieurs types d'actions. Et l'avantage d'une solution comme la nôtre, c'est qu'on vous permet aussi de comprendre quelles sont les priorités de vos salariés vraiment en mode confidentiel. Mmh. C'est-à-dire que même quand on demande aux salariés directement via l'entreprise, bah, on ne va pas toujours se livrer sur c'est quoi le vrai fond de ce dont j'ai besoin en ce moment oui. Pour m'accompagner dans ma vie perso. Donc y a aussi ce public-là qui cherche ce qu'il doit faire et où nous, on rencontre notre cible parce qu'on arrive avec une solution clé en main, facile à déployer. Donc, quand on a des urgences RH qui sont plutôt du recrutement, bah, on est bien content de pouvoir déployer quelque chose rapidement et facilement, tout en ayant toute cette partie culture d'entreprise qui est intégrée.
D'accord. Mais du coup, quand vous prospectez ou c'est eux qui viennent souvent à vous?
Alors, j'adorerais vous dire qu'on n'a pas besoin de prospecter. Non, dans la réalité...
Ceux qui viennent donc, sont déjà sensibilisés donc,
Alors, on a l'inbound et l'outbound ouais. classiques. je vais dire ceux avec qui j'échange, mais ceux qui viennent parce que même
en
si...
En général, c'est les RH, donc, c'est ça.
Ah oui, nos interlocuteurs, c'est toujours dans les équipes RH, parfois RSE, mais globalement, même si c'est RSE, par exemple, les responsables diversité et inclusion oui. vont être liés aux équipes RH. Et quand ils viennent, parce que même si on est allé les solliciter et qu'ils prennent rendez-vous, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui les... Voilà, il y a un sujet à aborder.
Oui.
Mais non, on fait un fort travail à la fois de prospection et puis il y a aussi le club RH. Enfin voilà, on a tout le panel de déploiement, développement commercial classique.
D'accord. Et aujourd'hui, vous accompagnez combien d'entreprises?
Et alors aujourd'hui... En direct, c'est-à-dire en interne, on a près de plus de 30 entreprises. Et après, on a aussi tout un pan où on accompagne des assurances et mutuelles. Et là, on atteint plusieurs milliers d'entreprises qui ont accès à une partie de notre offre via leur assureur ou prévoyance.
Ah oui, c'est intéressant donc, comme marché parce que les mutuelles assurances, en fait, ils sont tellement nombreuses que...
Exactement. Et puis surtout, ils sont de plus en plus sollicités aussi, ouais. par les équipes RH pour savoir bah, qu'est-ce que vous me proposez dans votre panel. Aujourd'hui, c'est bon, la mutuelle, enfin, on sait que ça rembourse les médicaments, mais on cherche à avoir plus. Ouais. Et puis en plus, il y a des acteurs sur le marché qui sont très innovants dans le bien-être des salariés et qui challenge vraiment tout le secteur de l'assurance. Et où les entreprises, vraiment, elles sollicitent aujourd'hui les mutuelles assurance pour savoir ben, qu'est-ce que vous pouvez me proposer.
D'accord. Et aujourd'hui, vous avez eu des retours, justement. C'est quoi les retours des salariés qui ont utilisé l'application?
Alors, souvent, c'est vrai que nous, on aime bien parce que parfois, les retours sont très profonds. C'est-à-dire que on se rend compte... Et c'est aussi ce qui nous fait nous lever le matin, c'est que, alors peut-être que notre objectif, c'est pas d'aider tous les salariés, oui. et c'est ce que je dis souvent en fait, heureusement que sur une boîte de 1000 personnes, il n'y en a pas 1000 qui viennent nous voir, parce que sinon, enfin voilà, c'est qu'il y a un problème dans la société, la société en général, et la société, l'entreprise en particulier. En revanche, ceux qui viennent nous voir, on a des retours comme parfois très forts de « j'étais au bout du rouleau, vous m'avez sauvé la vie ». Enfin, on a déjà eu ça et on se dit « ok, on sert à quelque chose ». Ou « merci parce que vous m'avez fait prendre de la hauteur sur ce sujet et maintenant je sais par quelle boule prendre ». Voilà, ça, voilà. Et puis ça oui. peut être aussi avec des difficultés. On a eu beaucoup ces derniers temps de parents salariés, parents d'adolescents, qui rencontraient énormément de difficultés de communication, d'ados qui se cherchent et où ça rend la relation très compliquée. et où on a justement mis les accompagnements nécessaires, que ce soit avec une psychologue spécialisée adolescence et médiation familiale, que ce soit l'assistante sociale qui va aider sur un sujet de phobie scolaire parce que c'est reconnu comme un handicap et que il peut y avoir un dossier qui est monté pour avoir des aides et un accompagnement spécifique. Donc on se rend compte qu'on est sur des sujets très forts, très intenses. On peut être aussi confronté à des décès dans une entreprise. C'est aussi toute la partie accompagnement des équipes.
Oui, c'est un accompagnement vraiment global sur le bien-être du salarié. Quand il se pose ces questions-là, il sait au moins vers quoi se tourner, en fait.
Exactement.
Donc, vers quoi et vers qui.
C'est ça.
Très bien. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal. Il y a quelques entreprises aussi qui se positionnent sur ce bien-être, parce que c'est un enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est un enjeu sociétal. Le bien-être des salariés, sachant que les entreprises ont quand même pas mal de pression, surtout depuis la crise. Il faut que il y a entre le bien-être, l'environnement, l'environnement écologie, l'égalité femmes-hommes, le bien-être des salariés. Ça fait quand même beaucoup de pression pour une entreprise. Enfin, pression. Il faut les accompagner sur tous ces enjeux, ces sujets qui deviennent majeurs aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres sociétés, d'entreprises qui se positionnent sur ces thématiques-là. Comment vous faites la différence ?
Alors, vous avez raison, il y a eu tout un boom autour des sujets même de la santé mentale, par exemple. Il y a eu beaucoup de nouvelles structures qui se sont lancées. La qualité de vie au travail aussi, la parentalité énormément. Alors, la première chose, c'est que c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est un marché en ébullition, qu'il y a des places à prendre et que en plus plus on est de fous plus on arrive à évangéliser ce marché et à avancer. Donc ça c'est la première chose. Et comment nous on se différencie? Alors c'est vrai que nous on a une approche assez spécifique puisque on a effectivement la partie, et notamment sur la partie soutien individuel et mise en valeur de ce qui existe dans l'entreprise. On ne se limite pas à ce qui est apporté par Ma Bonne Fée, c'est-à-dire que notre outil permet aussi de valoriser ce qui existe déjà dans l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Je vais vous donner des exemples très concrets. Vous avez par exemple, si dans votre boîte vous avez un référent handicap, un référent harcèlement, des process spécifiques pour les agissements sexistes, on peut les mettre en valeur aussi dans la solution. Si vous avez déjà, vous travaillez déjà avec un acteur de soutien psychologique depuis des années, on va aussi le valoriser dedans. Ça veut dire que notre care manager sait quelles sont les prestations, qu'est-ce qui existe déjà dans l'entreprise et va pouvoir aussi aiguiller et mieux valoriser ce qui existe déjà dans l'entreprise auprès des salariés. Donc ça, c'est un axe vraiment unique parce que la plupart des acteurs sur le marché sont sur une verticale qui est bien spécifique et apportent leur solution. Ils ne vont pas agréger aussi ce qui existe de manière générale.
D'accord, donc vous ne vous contentez pas de ramener juste une solution. Il y a quand même un état des lieux qui est fait en amont de ce qui existe.
Exactement.
Est-ce que peut être amélioré.
Voilà, est-ce que l'entreprise veut valoriser aussi? Nous, on va beaucoup rentrer dans toutes les négociations obligatoires autour des accords de qualité de vie au travail, des accords d'égalité professionnelle. Donc ça, c'est les accords qui ont lieu entre l'entreprise et les partenaires sociaux. Et on s'intègre dedans dans ces feuilles de route. Et donc l'objectif, c'est vraiment de révéler ce que fait l'entreprise sur ces sujets. Et c'est là où on a, nous, une force et un élément différenciant fort qui se fait pas ailleurs, d'autant plus que on donne même la main aux entreprises pour publier leur propre contenu, pour vraiment incarner, avoir cet outil qui incarne les valeurs et la culture d'entreprise sur la partie qualité de vie au travail. En fait, nous, on veut presque être le complément, vous savez, sur la partie les outils digitaux RH, vous avez tout ce qui est purement administratif, paye, etc., le légal, vous avez toute la gestion des compétences. Donc tout ça, c'est des sujets qui ont été abordés, où il y a des boîtes qui sont vraiment sorties du lot. Et puis, vous avez ce secteur complémentaire, plutôt donc compensation and benefits, donc les avantages aux salariés. Vous avez certaines boîtes vraiment sur la partie ticket resto, etc. Et puis, vous avez pas ce dernier, mais un de ces autres pans qui, moi, je trouve, n'a pas encore été exploité à sa juste valeur et où là, on veut se faire une place. C'est toute la politique RH, qualité de vie au travail, qui, en fait, au final, est le parcours global du collaborateur dans l'entreprise.
Oui, je vois très bien. Donc, c'est vraiment un sujet d'un équilibre, on va dire, entre vie professionnelle, vie personnelle pour les salariés en entreprise. Donc, c'est vraiment les accompagner sur toutes ces thématiques-là. Ouais. Donc, c'est votre différence. Et puis, il y a aussi donc, la parentalité, parce que vous êtes quand même l'ADN, on va dire, de Ma Bonne Fée, quoi.
Ça, c'est effectivement, c'est l'ADN de départ. On essaye de justement de, alors pas de s'en défaire parce que c'est une de nos expertises fortes, mais justement de montrer en quoi le fait d'avoir cette expertise et sur le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso qui déteint sur tous les autres sujets, on a cette légitimité à être plus large et puis d'autant plus avec l'outil qu'on a déployé qui est lui plus large pour en quelque sorte mettre à disposition du salarié. Lui dire qu'il ait la politique de qualité de vie au travail de son entreprise en 3 clics, quoi.
D'accord. Vraiment sur tous les sujets, les accompagner. Très bien. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il y a un nouvel associé qui vous rejoint. Là, j'imagine que comme ça, quand même, ça grossit, c'est de la croissance. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'intention d'aller chercher peut-être des investisseurs, de financer
le fameux sujet de la levée de fonds. alors oui, c'est-à-dire qu'on a déjà fait, ce qu'on appelle un bridge. On a des business angels qui ont rejoint l'aventure et qui sont à notre board depuis fin d'année dernière.
D'accord.
Et donc la fin de la levée de fonds aura lieu d'ici la fin d'année 2022. Alors c'est pas forcément un passage obligé, mais nous on a à la fois des besoins de recrutement et de déploiement tech et d'amélioration tech qui font qu'on a besoin de plus investir que ce qu'on gagne aujourd'hui. Et on veut aussi, c'est tout l'enjeu, gagner ses parts de marché suffisamment tôt. On parlait tout à l'heure de la concurrence qui est assez vive. Donc c'est aussi, ça fait partie de notre ambition d'être un acteur de référence sur le marché européen pour la qualité de vie au travail. Donc pour matcher cette ambition, il y a la question de la levée de fonds, qui est très épineuse. C'est un sujet à part entière, presque, qui est pas évident.
Mais qui est pas évident, qui est nécessaire là, puisque comme vous le disiez, donc il commence à avoir des concurrents et c'est un sujet qui est en plein essor. Donc pour se placer vraiment dans les numéros 1 référence sur le marché, donc c'est le moment, quoi.
C'est ça.
D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire, Delphine, c'est quoi le moment le plus difficile dans toute cette aventure Ma Bonne Fée depuis que vous avez commencé?
Très honnêtement, alors j'ai parlé tout à l'heure du confinement. Je pense que le moment plus difficile, ça a été, je dirais, la sortie du confinement. Autour de l'été 2020.
Ouais.
Parce que déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le confinement a été très difficile, moralement, physiquement. Je me levais à 6 heures du matin pour travailler jusqu'à ce que les enfants se réveillent. Et puis, je reprenais le soir, une fois qu'ils étaient couchés, je travaillais jusqu'à minuit, 2 heures du mat. Et puis, la journée, ça ne s'arrêtait jamais. Donc, j'étais très fatiguée. Je pense, et sans aucun tabou, avoir fait un bon burn-out l'été 2020, dont je me suis... j'ai envie de dire très bien sortie, parce que j'ai su, c'est aussi tout ce qui a été l'histoire de Ma Bonne Fée au final, mais j'ai su être accompagnée par les bonnes personnes au bon moment, c'est-à-dire un peu avant que ce soit trop tard. Ce qui n'empêche que j'ai eu un an difficile, et puis là encore sans tabou, parce qu'en plus je parle de santé mentale, mais donc sous anxiolytiques, antidépresseurs, la totale. Parce que en fait, j'avais eu un tel niveau de stress que même physiquement, en fait, ben il y a un moment oui. où ça, ben, ça le lâche. Corps tient pas. Exactement. Mmh. Et donc je pense que c'est le moment le plus difficile. Et en même temps, ce qui est fou, c'est que c'est aussi ce moment-là où ben on a apporté plein d'évolutions dans ma bonne fée. C'est-à-dire que moi je disais, enfin, je sais, il faut qu'on mette des trucs de bien-être et je, en fait, c'était comme si j'avais besoin de me nourrir moi. Oui. De changer des choses et je me disais ben en fait si ça me sert à moi ça servira forcément à d'autres. Mmh. Et donc à la fois je les testais et je les mettais en place, enfin et on les mettait en place et je pense que c'est aussi c'est ma bonne fée entre guillemets qui m'a mise dedans, mais c'est aussi ma bonne fée qui m'a fait m'en sortir avec avec ce qu'on a créé, l'environnement qu'on a créé, la sensibilisation mmh. qu'on a faite. C'est aussi ce qui fait que je m'en suis rendu compte. C'est aussi ce qui fait que après j'ai commencé des ateliers de sophrologie, etc. Donc c'est le cercle vertueux, quoi.
Votre expérience, même si elle était pas, était un peu négative, on va dire, elle était pas top, au moins a permis de nourrir le projet quelque part.
C'est ça. C'est ça. Donc après, bon, rien n'arrive par hasard, ouais. Mais voilà, je dirais que ça a été le moment le plus difficile. Et puis après, on pourrait parler aussi de la levée de fonds, c'est vraiment un exercice très difficile parce que et c'est on voit beaucoup de levées de fonds, c'est-à-dire qu'on voit des annonces de partout, de personnes, beaucoup d'hommes, un peu de femmes qui lèvent tous des millions et on, ce qu'on ne voit pas dans les histoires, c'est à quel point ça a été difficile d'en arriver là et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Alors après, c'est ça aussi l'intérêt d'être dans des réseaux d'entrepreneurs qui motive, ou en fait on vous dit aussi la réalité du terrain, que c'est normal que ce soit difficile, que c'est normal d'avoir 100 noms avant d'avoir un oui, et que il faut tenir la longueur, que c'est 100 noms, ça veut pas dire que le projet est pourri et que il faut tout arrêter, ça veut juste dire que c'est pas la bonne personne pour nous accompagner et que ben il sait pas ce qu'il loupe.
Ouais.
Il ou elle ne savent pas ce qu'il loupe. Donc je dirais que ça aussi pour son ego, le projet est déjà, l'entrepreneuriat c'est déjà très difficile et là vous devez être quand vous levez des fonds vous devez être au taquet en permanence, vous enchaînez les rendez-vous, vous répétez les mêmes choses, vous finissez par confondre ce que vous avez dit à qui, c'est hip, et en même temps on vous challenge en permanence, on vous dit tout ce que mais ce qui est normal, exprès on vous dit on vous challenge sur la moindre petite chose.
Ouais, c'est un challenge, quoi. C'est un marathon, plutôt.
Ouais, bah, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Je sais pas quand est le 40e kilomètre, ça s'arrête, mais...
Mais est-ce que c'est plus difficile pour une femme, ou est-ce que le fait, justement, d'avoir des associés hommes, là, je parle pour la levée de fonds, ouais. Ça fait une différence?
Je ne saurais pas répondre à cette question, parce que, moi, j'ai pas été spécialement dans des situations où je me suis sentie... mal ou
mise à l'écart,
ouais, parce que j'étais une femme. Après, et je le sais, c'est arrivé à des proches entrepreneurs, eux, donc je sais que ça arrive. Je sais que c'est une réalité, que c'est plus difficile, et les chiffres le montrent, les études. Moi, je fais partie du réseau Sista, je suis Sista entrepreneur. Bon, bah, tous les ans, ils produisent l'étude avec le BCG où. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est 2% des boîtes fondées exclusivement par des femmes qui lèvent. Donc, bon, il y a un sujet.
Il y a un problème.
Après, est-ce que je l'ai vécu est-ce que je l'ai affronté directement en me disant « Ah, c'est parce que je suis une femme que c'est difficile ». Non, je pourrais jamais dire ça.
Non, ça n'a pas été votre cas. Non, tant mieux. C'est que ce n'est pas pour tout le monde, tant mieux.
Voilà.
ou que ça évolue, en tout cas.
Voilà. Ou que... Voilà, après, en tout cas, heureusement que ça n'est pas toujours aussi cliché. Oui. Encore une fois, ça existe. Enfin, il y a vraiment des situations horribles que j'ai entendues, mais vraiment horribles, de sexisme, même de harcèlement, etc. Moi, j'en ai pas vécu.
Tant mieux. Vous avez reçu, Delphine, pas mal de prix, j'ai vu, de trophées comme femme entrepreneur et pour Ma Bonne Fée aussi. Est-ce que ça aide ça aussi à tenir dans ce parcours toujours facile?
Franchement,
ça fait du bien.
Ouais, franchement, c'est un peu les trucs, on a notre petite coupe là. Alors déjà, il y en a qui parfois amènent de l'argent, donc ça aide à tenir.
Bah oui.
Donc quand on a gagné le prix Made in 92, quand on a gagné la Fabrica Viva, quand on a gagné... tout ça, c'était des subventions. Là, ces derniers temps, on a gagné aussi le prix le prix du think tank Marie-Claire sur l'égalité professionnelle dans l'environnement professionnel. Enfin, l'égalité femmes-hommes dans l'environnement professionnel. Donc, ça, pareil avec Finale et à l'UNESCO. Donc, une belle visibilité aussi et qui donne derrière aussi des potentiels clients. Donc c'est... Oui, ça participe. Après, c'est toujours, quand on est entrepreneur, c'est mesurer à quel moment les coûts-bénéfices, c'est-à-dire le temps que je vais mettre à remplir ce concours, à faire ce truc, versus qu'est-ce que ça va m'apporter. Là-dessus, je suis devenue un peu plus... le plus strict où il faut que ça mette très peu de temps et puis que derrière il y a un bénéfice visible quoi.
Ouais, j'imagine, parce que c'est du temps aussi quoi.
Ouais, c'est du temps.
Mais c'est après une reconnaissance aussi quelque part.
Reconnaissance, en fait bientôt je vais recevoir un prix, mais je sais pas si c'est encore officiel, mais au mois de mai un autre prix justement pour récompenser les engagements qu'on porte sur les sujets d'inclusion et de qualité de vie au travail, ce qui est sûr, c'est que souvent, on a envie d'abandonner. Quand on est entrepreneur, c'est, encore une fois, je révèle pas de secret, c'est très dur. Et quand on a envie d'abandonner, il y a des petits trucs un peu paillettes qui font que, c'est vrai, en fait, il n'y a pas que moi qui pense que c'est utile, il y a d'autres gens qui pensent que c'est utile. Ça veut pas dire que gagner un prix on a tout gagné. Faut encore une fois c'est parfois un peu de paillettes et c'est tout. Mais ça aide le moral, ça rebooste énormément.
C'est ça. Mais oui, j'ai reçu des entrepreneurs eux qui me disaient qu'il fallait prendre le temps de fêter les victoires parce que c'est vrai que on regarde souvent ce qui va pas et puis il faut prendre le temps de ces petites choses qui se passent bien pour se dire ça avance quoi.
Et moi je pense que c'est une des pistes d'amélioration, c'est qu'on fête pas assez nos victoires.
Exactement, c'est ça.
On est tellement la tête dans le guidon que et ça d'ailleurs c'est, je faisais un point hier avec mes deux associés où on se disait il faut qu'on fête plus nos victoires, même petites, parce que c'est ce qui fait que l'aventure est fun, quoi, et qu'on continue, parce qu'au-delà de ce qu'on porte et de pourquoi on le fait, que pour nous, ce soit aussi une fierté et un plaisir. Et clairement, parfois, on se dit, mais pourquoi je me donne autant de mal, en fait ? Pourquoi je me mets dans une situation où je gagne pas ma vie où en fait je me prends que des noms où je dois démontrer sans cesse l'intérêt et c'est vrai que ça c'est les jours un peu dark où on voit tout en noir et avoir un peu de reconnaissance ça fait qu'on se dit, en fait, il y a quelque chose. Là, un des derniers exemples, alors c'est pas vraiment la partie prix-concours, mais je commence à intervenir même auprès de médias. Donc là, certainement, je vais intervenir sur des chroniques régulières chez BFM Business en tant qu'experte qualité de vie au travail. Ça, en fait, c'est aussi une reconnaissance de ce qu'on fait, et qui en plus moi accessoirement me change de mon quotidien où j'ai la tête dans le guidon à vendre ma solution etc donc c'est agréable.
Ouais, ça nourrit autrement.
Oui, exactement.
Merci beaucoup Delphine, je vais poser les dernières questions que je pose à la fin de l'interview. C'est quoi vos prochains défis pour 2022?
Alors, défi 2022, nous, c'est commercialisation à fond. Et puis, on a recruté pas mal ces derniers mois, puisqu'on... Alors, on est encore une petite équipe. En interne, on est 11, mais on a doublé en 2 mois. Donc, c'est aussi structurer l'équipe, trouver chacun sa place. Donc, les enjeux, c'est commercialisation, RH, et puis l'amélioration de notre produit tech. C'est vraiment ça nos gros enjeux 2022. Je mettrai derrière la levée de fonds, mais en fait, si les trois premiers vont bien, la levée de fonds, elle suit.
D'accord. Bon, on souhaite. Quel conseil vous donneriez à une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui est maman ?
Alors, une femme entrepreneur qui est maman... je ne dirais pas que... Déjà, la première question, c'est quelle forme d'entrepreneuriat ? C'est-à-dire que de bien réfléchir à... c'est pas la même chose de se lancer comme consultant, freelance, ou de lancer une boîte où on va vouloir structurer, recruter une équipe, lever des fonds ou pas. Mais... Donc déjà, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je veux. Quelle forme ça doit prendre, c'est quoi mon modèle de vie idéal. Et ensuite, alors c'est un peu le conseil que j'avais donné en préambule, mais c'est ne pas hésiter à aller rencontrer un maximum de personnes, de vraiment challenger son projet, d'en parler, de ne pas croire qu'il faut que ça reste secret parce que sinon on va nous le copier. Ben non, si on doit vous le copier, de toute façon on vous le copiera. Et puis la question c'est comment vous allez mener le projet et l'exécuter et... Donc challenger à fond son projet, en parler à plein de monde, rencontrer plein de monde, vraiment prendre... toutes les dimensions de ce que ça représente de se lancer, de... voilà. Et puis un dernier conseil, c'est aussi avoir conscience que... Mais souvent on l'a, mais moi je le dis parce que je ne l'avais pas assez, que ça va vous faire sortir très fort de votre zone de confort. Donc il faut aussi être prêt à ça. Si on se sent un peu border, entre guillemets, c'est pas le bon moment. Et c'est vraiment, encore une fois, j'insiste, mais parce que je trouve qu'il y a parfois un manque de réalité sur... on a l'impression que c'est le nouveau Graal d'être à son compte, d'être entrepreneur, freelance. Alors oui, pour certains, c'est le Graal, mais pas pour tout le monde. Et encore une fois, globalement, sur l'ensemble du panel, c'est très difficile.
Oui. Donc il faut savoir qu'il y a des embûches, en tout cas, à passer. Voilà, qu'il faut exactement. Être prêt, en fait, à les...
C'est ça. Mais après, quel formidable défi, quelle formidable aventure. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez faire des choses extraordinaires sur votre chemin, quoi qu'il en soit.
Et vous avez réussi à trouver, en tout cas, un équilibre entre la vie de famille et l'entrepreneuriat ?
Alors, suite à mon moment un peu border, beaucoup échangé aussi, j'ai la chance d'avoir un conjoint très 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 présent qui lui chez nous c'est lui qui porte la charge mentale maintenant parce que justement tellement j'ai entre guillemets perdu pied et on se partage, c'est vraiment un partage des tâches mais je pense qu'on s'est un peu donné aussi des attentes de ce qu'on voulait pour notre vie de famille, pour notre cadre, pour la vie pro et aussi, il faut se rendre compte qu'il y a des moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je lui dis, là, ça va être très intense parce que j'ai ces gros projets à terminer. Et on sait que c'est sur un moment, en fait. Et de temps en temps, quand ce moment, il dure trop longtemps, il me le dit, il me le fait comprendre. Et j'essaye justement de rééquilibrer et de retrouver le bon rythme. Mais globalement, c'est beaucoup mieux que les tout débuts. Ouais. Et mon dernier conseil, d'ailleurs, sur... c'est que moi, quand je me suis lancée, on m'a dit « c'est maintenant que tu dois tout donner, tu dois travailler 18 heures par jour et c'est comme ça et tu réussiras que si tu fais ça ». Je pense que c'est faux et que ça, c'est... Alors, encore une fois, c'est plutôt un gros risque d'être en permanence au taquet. Encore une fois, si c'est un marathon, on ne part pas en sprint dès le départ. Donc c'est un de mes conseils, c'est aussi de se ménager du temps pour soi, pour son environnement personnel. Et ne pas croire que c'est en s'acharnant des heures sur son projet que c'est ça qui va en faire la réussite.
Oui, il faut prendre le temps pour soi.
Exactement.
Est-ce qu'il y a une femme dans le paysage entrepreneurial qui vous inspire ?
Moi, j'ai plein d'inspirations qui sont plutôt, on va dire, mes réseaux d'amis entrepreneurs. Et je ne vais pas réussir à en citer juste une, je pense. Donc, je vais vous en citer plein en vrac. J'ai Amélie qui a fondé Doctoomy. J'ai Aude qui a fondé Plume. J'ai Claire qui a fondé De Bon Goût. J'ai Marion qui a fondé Listen Léon. J'ai Karine qui a fondé Test un Métier. Voilà, j'en oublie certainement, mais en fait, j'ai Solène aussi qui a fondé Soft Kids. En fait, c'est aussi ces réseaux et ces amis entrepreneurs qui souvent me boostent et me redonnent l'élan dont j'ai besoin. Mmh. En fait, ça, c'est bête à dire, mais c'est les seuls qui peuvent vraiment comprendre ce que je vis, avec qui je peux partager. En plus, souvent, on est dans des plus ou moins des stades équivalents, parce qu'on a grandi ensemble. Ça fait un peu des promos d'entrepreneurs.
Ouais, c'est drôle.
Ouais. Et je trouve que c'est hyper clé, encore une fois, de bien s'entourer. Mmh. Et elles sont toutes à m'inspirer à leur manière, chacune.
D'accord. Donc, un réseau d'entrepreneurs qui se connaît depuis un moment. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça permet de bien se soutenir.
Exactement.
Est-ce que vous avez un livre, podcast ou documentaire que vous aimeriez nous recommander ?
Alors, podcast, évidemment, le podcast du Club RH, si vous avez des intérêts, si vous êtes
si
RH.
Vous êtes dans le domaine de RH. Ouais.
Non, alors, c'est marrant, ces derniers temps... Alors, encore une fois, grâce à ma bonne fée, j'ai découvert toute la rubrique du développement personnel et j'ai notamment découvert les livres de Maud Ankawa que je recommande énormément. Alors après, quand en tout cas, je pense que moi je découvrais complètement et donc c'est une bonne entrée en matière qui est très romancée et qui fait prendre beaucoup de recul sur les choses et j'ai adoré. Elle a deux livres qui sont Respire et Kilomètre Zéro. Kilomètre Zéro étant le premier et Respire le deuxième. Et je trouve que je les ai lus à chaque fois en une soirée et c'était vraiment une grosse claque de prise de recul et de c'est quoi ce qui est important dans la vie. Et voilà, donc ce serait ma reco du jour.
D'accord. Développement personnel, revenir aux sources. Quoi.
Exactement. Mmh.
Est-ce que vous avez un mantra, proverbe qui vous accompagne ?
Alors c'est marrant parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps, moi j'en ai un qui est alors c'est en anglais et ça rend mieux en anglais mais et j'ai un accent pourri mais nothing great ever came from comfort zones, donc
très bien l'accent.
Voilà, donc les grandes choses ne sont jamais sorties des zones de confort, donc en français c'est bizarre. C'est marrant parce que c'est le jour où je me suis, enfin en tout cas le mois où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais eu ces petits fortune cookies là,
oui.
Que j'avais ouverts et c'était cette phrase là. Et je trouve qu'elle illustre bien aussi, en fait, c'est pas en général, c'est pas en restant dans sa zone de confort qu'il se passe des choses. Mmh. Il faut en sortir. Mais là où je mettrais un petit bémol à ce mantra qui me porte beaucoup, c'est qu'il faut quand même de temps en temps avoir des moments où on revient dans sa zone de confort. Parce que si on fait un stretch trop grand, c'est là où c'est vraiment difficile. Donc, il faut naviguer entre sortir, re-rentrer. Exactement.
Voilà, prendre un peu de risque et puis c'est revenir. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Quoi.
C'est ça. Tout est une question d'équilibre.
C'est ça. Merci beaucoup. Merci Delphine, vous, si on veut vous écrire.
Alors, je suis hyper réactive et présente sur LinkedIn. Donc, je vous encourage évidemment à m'ajouter sur LinkedIn. J'essaye d'allouer du temps à toutes les entrepreneurs qui se lancent ou qui ont envie de discuter. Je vous avoue que je suis souvent beaucoup sollicitée, donc du coup, je réponds pas avec autant de réactivité que ce que j'aimerais, mais avec plaisir pour donner 2-3 conseils à ma modeste mesure. C'est toujours un plaisir.
D'accord. Merci. En tout cas, c'est une très belle entreprise que j'ai découvert là, ma bonne fée.
Merci
avec un
beaucoup.
Très beau message à faire passer, un très beau projet que vous portez là, en tout cas.
Merci, Fatima.
Et puis, je vais vous laisser le mot de la fin.
Merci de me donner cette opportunité d'en parler, parce que, en fait, de prise de hauteur, de retracer un peu tout, parce que finalement, j'ai parlé de ces 4 dernières années, de ce qui m'anime. Encore une fois, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais comme je disais, quelle aventure extraordinaire, je vis des choses que j'aurais jamais vécues sinon. Et puis, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Ouais. Donc, trouvez le vôtre.
Merci, très beau mot de la fin.
Merci Fatima.
Merci beaucoup.
Vous êtes encore là ? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous !